Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, je voudrais vous proposer une lecture qui fait suite à une méditation que nous avions ouverte il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, je me souviens plus trop. Mais peu importe, le titre de cette méditation, c'était « Les naufragés du désespoir ». Alors je voudrais vous rappeler un petit peu le contenu de cette méditation. Nous avions pris deux textes, un dans l'évangile de Jean chapitre 6, où il était question de Jésus dans la barque avec ses disciples. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis également d'une autre partie que nous avions pris dans le psaume 107, où il était question de marins qui partaient sur l'océan et qui, finalement, eh bien là, on se trouvait en difficulté. Alors, c'est ce que nous avions naturellement, eh bien, médité la fois précédente. Et pour cette mémoire, il était question donc tout simplement d'un bateau en péril, je ne sais pas si vous en souvenez, qui cherche dans la tempête, dans l'ouragan, dans les ouragans, tout simplement, eh bien, un havre de destination. Ils crièrent à l'Éternel, c'était le thème, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et Dieu les délivra de leurs angoisses, et ils trouvèrent le port désiré. Ça vous dit quelque chose? Hein? Alors, ça c'était un rappel. Pour comparer, et nous allons prolonger notre méditation, pour comparer que la vie humaine, notre vie à chacun, les hommes, les chrétiens même, eh bien, nous sommes souvent des embarcations endommagées par les tumultes de la vie, par toutes sortes de choses, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan psychologique, j'ose le penser sur le plan spirituel, puisque maintenant, le gouvernail a été remis à sa place et la grand voile a été finalement ouverte pour que nous puissions suivre le bon vent. Et ça, c'était le thème donc de notre précédente leçon, notre précédente réflexion. Maintenant, je vous invite à ouvrir le livre des Actes des Apôtres. Il est toujours question de la même pensée, mais je voudrais justement, eh bien là, marquer quelque chose de particulier dans ces naufrages ou dans les naufragés du désespoir. Et nous ne sommes pas faits pour rester des naufragés. Et nous ne sommes pas faits pour être prisonniers du désespoir, au contraire, hein. C'est un message d'encouragement. Alors, dans le livre des Actes, chapitre 27, verset 20, je lis cette parole, et j'aimerais que nous méditions sur ce passage, et nous allons ensuite, plus tard, nous reporter au cours de cette réflexion dans un autre livre de la Bible, dans l'Ancien Testament. Alors voilà, donc Actes chapitre 27 verset 20. Écoutez bien. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Quelques mots. Quelques mots pour décrire finalement les vicissitudes de l'existence, tout ce que nous pouvons rencontrer. Il y a des jours heureux, heureusement, forcément, mais il y a des jours où quelquefois, eh bien, le soleil, la lune disparaissent. Le soleil, c'est pour le jour, la lune, ou les étoiles, c'est pour la nuit, naturellement. Et il nous est simplement dit que tout ça s'éteint à un moment ou à un autre, ou semble s'éteindre, parce que je voudrais quand même vous dire que le soleil revient toujours. Et que dans la tempête qui était si forte, alors Paul, parce qu'il s'agit de Paul, de ses compagnons sur ce navire qui partait finalement de Palestine pour aller jusqu'à la capitale de l'Empire qui est Rome, il nous est dit que à un moment donné, après avoir tant lutté, après avoir été plongé dans l'angoisse, dans le désespoir, il nous est dit qu'ils en perdirent enfin. Au bout, au terme de toute considération, de tout effort qui puisse être fait, toute espérance de nous sauver. Je voudrais m'arrêter simplement sur ce « nous sauver ». Tant que nous restons à nous sauver nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Et moi, je voudrais changer la nature des mots et de cette phrase. Nous perdions toute espérance d'être sauvés. C'est un état. Et nous allons voir que nous allons conjuguer cela, eh bien, à la manière dont la Bible nous en parle, et pour nous chrétiens, nous avons une espérance. Tragique condition humaine quand tout semble perdu. Alors peut-être que vous auriez des histoires à nous raconter ce matin les uns et les autres en pensant que vous avez traversé des moments difficiles dans votre vie. Et peut-être vous pourriez nous dire, eh bien, à un moment donné, c'est vrai, un certain moment particulier, une nuit particulière, ou dans des circonstances tout à fait cruciales, j'ai pensé que j'étais perdu. Pas perdu spirituellement, mais de ne pas pouvoir m'en sortir pour ma propre vie. Et ça, c'est quelque chose véritablement qui illustre bien le titre de notre message, « Les naufragés du désespoir ». Quelques mots, avons-nous lu, qui en disent long sur la détresse éprouvée dans les tempêtes de la vie. C'est peut-être un deuil, c'est peut-être une trahison, un abandon, à quel âge que nous sommes arrivés. C'est peut-être des violences, des humiliations, c'est peut-être beaucoup de choses, parce que la vie elle est faite de beaucoup de choses, et pas toujours un bien. Alors nous allons examiner le contexte de ce récit-là, de Actes chapitre 27, je ne l'ai pas lu en entier parce que vous le connaissez, je pense que vous le savez très bien, et il s'agit d'un drame. Un drame qui va bien se finir, parce qu'il faut quand même le dire, avec Dieu tout se finit bien, c'est un naufrage. Et j'ai regardé un petit peu la signification du mot naufrage, ça vient du mot navis, donc il est question de bateau, de vaisseau, et de frangere, qui veut dire tout simplement briser, un bateau qui se brise, un bateau qui est endommagé, un bateau qui est en avarie, un bateau qui péniblement prend l'eau et est prêt à sombrer. Alors dans la définition que nous donne le dictionnaire du mot naufrage, c'est la perte par le fait de force majeure. Écoutez bien, c'est important, parce que dans la vie il y a des choses qui font partie des forces majeures, des forces qui nous dépassent, qui ne viennent pas forcément de nous, de nos imprudences, de nos manques de considération du danger. Donc, ça vient par le fait de forces majeures étrangères à la volonté humaine. C'est-à-dire que ça peut arriver à tout le monde. Et naturellement, le mot naufrage est synonyme de désastre, qui évoque tantôt une ruine matérielle, un bateau, comme cela va être dit, ou alors une ruine morale. Et ça, c'est quelque chose. La ruine de notre vie intérieure, de ce que nous sommes. Et ce que l'on a appelé, ce que j'appellerais ce matin, les malgré-soi. Vous savez, on appelle les Alsaciens les malgré-soi, parce que tantôt ils étaient du côté allemand, ils l'avaient pas choisi, tantôt ils étaient du côté français. On les appelait les malgré-soi, je sais pas si vous avez entendu parler de cette expression. Mais dans la vie, nous sommes quelquefois, emportés dans des situations qui nous dépassent. C'est pas nous qui les choisissons. Et les malgré-soi embarqués ou à la recherche d'un refuge. Parce que lorsque nous sommes dans une situation de déséquilibre, ou nous sommes dans une situation de danger, nous cherchons toujours à nous réfugier, à chercher un secours, quel qu'il soit. Alors j'aimerais simplement reprendre en substance quelques éléments de ce chapitre, mais très rapidement, parce que nous ne pouvons pas nous arrêter, j'ai encore des choses beaucoup plus précises à donner. Et au verset 6 et 8, je voudrais simplement le relire. Il est dit ceci, « Et de là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter. » Ça c'est Paul qui explique sa fameuse histoire où il va être embarqué dans un procès où il est complètement innocent et doit comparaître devant l'empereur de Rome, mais pour aller à Rome, on prend pas l'avion à ce moment-là, on prend le bateau et il est prisonnier. « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permet pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone, Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lassé. » Ça, c'est l'histoire de Paul qui commence. Un homme, malgré soi, est emmené dans une aventure qu'il n'a pas choisie, inculpé d'avoir prêché Jésus-Christ. À l'époque, on ne plaisantait pas avec ça. Surtout dans l'Empire, puis dans tous les pays d'ailleurs. Alors, on va souligner une chose, parce qu'il nous est parlé de l'intrépidité des hommes. Le verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était passée. » C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Voilà, cet homme qui est Paul, qui ne connaît rien à la navigation, inspiré probablement par Dieu, va dire « Attendez, là, nous avons dépassé l'époque favorable pour aller en mer, parce qu'à cette époque, on ne sortait qu'à la belle saison, la saison estivale. On ne prenait pas le risque de traverser cette mer que l'on appelle la Méditerranée, qui est apparemment tranquille, mais quand il y a des tempêtes, ça vaut bien les tempêtes de l'océan. » Et il va donc, finalement, mettre en garde contre l'intrépidité et la témérité de ces hommes. Ils sont 276 sur le bateau. C'est déjà un gros navire, un navire de commerce. Il transporte du blé et des céréales à Rome, et dont nous pouvons être les victimes. Et ça, j'appuie sur le mot. Quelquefois, il y a des gens qui prennent des décisions pour nous et dont nous allons être les tributaires. C'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer. Et nous voyons que Paul va leur dire « Non, faites attention, il va nous arriver véritablement des dommages pour le bateau, mais aussi pour nos personnes. » Il est en train de mettre en évidence l'insouciance et l'irresponsabilité de tous ceux qui sont avec lui, enfin ceux qui commandent le navire en tous les cas. On va aller un peu plus loin, versets 11 et 12, où je passe très rapidement. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Ensuite, il est dit, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud, sud-ouest, nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Nous avons quelque chose de particulier qui est souligné à ce moment-là dans ce commentaire qui nous est rapporté par Luc. C'est Luc qui rapporte ça. C'est que la sagesse humaine, prétendument sagesse humaine, est souvent une folie. Oui, une folie. Les gens appelleront ça de la sagesse, du bon sens, mais c'est de la folie. On va s'en rendre compte. Il y a trois personnages sur le bateau. Il y a le centenier qui accompagne Paul. C'est un homme qui a l'autorité, finalement, l'autorité impériale. Il est centenier, capitaine, si vous voulez. Il y a un pilote. Le pilote, c'est l'homme de l'expérience, il sait manœuvrer un bateau. Et il y a le patron, puisque cela nous est dit. Le patron, c'est l'homme qui a des intérêts. C'est l'armateur, en quelque sorte. Et lui, il a tout intérêt à faire passer la marchandise le plus vite possible, le plus rapidement possible, quelles que soient les conditions, finalement, pour livrer sa cargaison et toucher de l'argent. Donc, vous avez trois personnages. Il y a l'autorité, il y a l'homme d'expérience qui est le pilote, et il y a également le patron. Ils ont des intérêts divergents. Mais ils vont tous se mettre d'accord pour tenter l'aventure, quitte à passer par le fond. Et il nous est dit que Paul a parlé, Paul leur a donné des conseils de prudence, mais il nous est simplement rappelé qu'ils écoutèrent plutôt les uns les autres que d'écouter Paul. Quand Dieu parle, Dieu parlait vraisemblablement par Paul, et ils vont partir, et ils furent d'avis, finalement, de prendre la mer. Le verset 13 nous dit ceci, « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. » Vous avez remarqué? Il y a une accalmie. Il y a quelque chose qui semble favorable. Un léger vent du sud, un vent chaud, et se croyant maître de leur destin, maître de leur sort. Ça, c'est l'illusion du salut. L'homme a toujours pensé qu'il était plus intelligent et plus sage que Dieu. Alors, ils se disent, allons-y, Pourtant, les conseils ont été donnés. Pourtant, les avis n'ont pas été suivis. Et voilà que, comme s'il y avait une main meurtrière qui était dans l'invisible et qui disait « Mais je vais vous faire souffler un vent léger. Vous allez voir, vous allez vous rassurer. Vous allez penser que vous avez raison dans cette affaire. » Donc, ça commençait par quelque chose d'assez formidable et quelque chose de favorable plutôt. Et ils vont, contre l'avis de tempête qui va souffler, eh bien, ils vont se retrouver tout simplement dans une situation terrible. C'est un choix criminel ou une criminelle insouciance ou inconscience, se croyant maître de leur sort. Mais vous savez, je voudrais vous dire que la nature sera toujours plus forte, de toute manière que nos décisions et tout ce que nous pouvons prendre. Un peu plus loin, il nous est parlé qu'ils vont se trouver au cœur de la tourmente. Le vent tourne à ce moment-là, et le verset 14, « Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Orakilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Il est parlé d'un vent impétueux à ce moment-là, après le vent doux. Un vent impétueux. Les flots se sont déchaînés, ils ont été entraînés pour arriver à cette appellation, à ce terme, pour aller à la dérive. Quelquefois, il y a des vies qui sont comme ça. Envers et contre tout, on y va. On force le barrage. On pousse la barrière pour se retrouver à la dérive. Ce sont des cas extrêmes, mais vous allez voir sur quoi je voudrais arriver tout à l'heure. Dans la suite du récit, nous passâmes au-dessus d'une petite île qui s'appelait Koda et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et puis, etc., toutes sortes de choses. Voilà que cette fameuse chaloupe de salut, qui pouvait peut-être être encore un espoir quand le bateau est au milieu de la mer, on se dit, il y a encore une chaloupe pour secourir si jamais il y avait quelque chose. Mais ça, c'est véritablement de l'illusion. Et très vite, les naufragés vont se trouver dans ce que nous pouvons appeler le sauve-qui-peut, tout simplement. Et le terme nous dit, mais on se laissa emporter. Quand on ne peut plus rien faire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous débattre? Nous laisser emporter? Les choses sont ainsi. Le verset 18 nous précise encore, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Et le soleil et les étoiles, donc, ne parurent plus pendant quelque temps. Voilà. Tout est bon pour échapper à la catastrophe. Je vous ai parlé du sauve-qui-peut tout à l'heure. Mais quelle pouvait avoir cette utilité dans cette chaloupe? Puisque de toute façon, tout était sans dessus-dessous. Et ils ont mis tout à la mer, tout par-dessus bord. Ils ont même, finalement, ils se sont privés, eux-mêmes, des agrès du navire. Vous savez ce que c'est que les agrès? Ce qui sert à la manœuvre, c'est-à-dire les câbles, les voiles, les cordages, la voilure naturellement. Mais quand on met tout ça à la mer, il nous reste plus quoi? Il nous reste plus qu'un esquif qui va balloter de droite et de gauche un misérable bateau qui va être emporté à un moment ou à un autre par une vague encore beaucoup plus grande. Quelquefois, nous passons tout par-dessus bord. Ou, je vous rappelle, en ce qui concerne le cas de Paul, il n'avait pas choisi. Et dans nos vies, et justement, je voudrais appuyer cela, c'est que quelquefois, il y a des choix qui sont faits par les autres. Nous sommes embarqués, nous avons mis les pieds sur un bateau. C'est comme quand vous prenez l'avion. Quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude et que vous commencez à avoir mal au cœur, vous dites pas au steward, permettez-moi que je prenne un peu l'air, ouvrez bien la porte. Parce que là, vous allez tous descendre, vous comprenez? Eh oui, mais là, on est embarqué. Bateau, que ce soit un avion ou autre chose. Donc, j'ai voulu faire cette petite promenade un petit peu qui donne le mal de mer, qui donne la nausée, parce que ça va introduire ce que je voudrais maintenant voir avec vous. Dans cette détresse des hommes qui sont dans la tempête et qui sont dans l'ouragan. Et j'aimerais justement aborder cette deuxième partie de naufragés du désespoir. C'est le désespoir des âmes. Là, il s'agit de matériel. Il s'agit d'hommes dans leur corporalité. D'hommes qui sont en détresse, des gens qui peut-être pour certains sur ce bateau ont le pied marin mais qui ne savent plus quoi faire à ce moment-là. Mais la détresse des âmes, ça c'est quelque chose d'autre et c'est là où Dieu peut nous sauver physiquement dans les dangers de la vie, mais combien il veut nous parler ce matin Moi, j'ai eu à cœur de vous dire ce message. Combien il peut nous parler pour nous délivrer de toutes les angoisses, de toutes les peurs, de toutes les craintes, de toutes les détresses, de tous les risques de naufrage de nos âmes. Et ça, c'est une nouvelle, approche de notre méditation, une prolongation de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Je relis ce verset. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ce verset que je viens de citer dépeint ce que signifie le naufrage de l'âme. Oui, notre identité, notre personnalité, c'est notre âme. Et ça s'adresse à ceux et à celles depuis longtemps qui sont, je parle au présent, ou qui ont été traumatisés par un accident de la vie. Et les uns et les autres, grandement, ou peut-être moindre, mais nous avons tous vécu des choses difficiles. Et nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes là pour être guéris. Nous sommes là pour être délivrés. Et le Seigneur voudrait nous amener, non pas à échouer pitoyablement, mais à relever la tête. Parce que moi, je crois que Dieu guérit. Que Dieu est capable de nous guérir de ce qui ne se voit pas aux yeux des autres, mais qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous ravage. Alors on pourra bien mettre tous les agrès à la mer, on pourra bien, là, détacher la chaloupe, on pourra bien voir un petit peu de quel côté souffle le vent, prendre quelques espoirs, mais le Seigneur ne nous berce pas, finalement, d'illusions humaines. Il veut nous donner des convictions et il veut nous donner des certitudes que c'est lui qui va nous délivrer. Me semble-t-il que ce message est important. Donc, je le rappelle, ceux qui sont traumatisés, on peut se reconnaître les uns et les autres, et on sait de quoi il s'agit. On n'a pas besoin de le confesser à tout va, à n'importe qui. Mais on le garde dans notre cœur, et ça nous fait souvent souffrir. Les accidents de la vie, où le soleil et les étoiles ont disparu. Et de pouvoir peut-être penser que la tempête a été si forte, et qu'elle est si forte pour nous encore aujourd'hui, c'est que nous avons, même en tant que chrétiens, nous sommes sur la tangente de savoir si nous n'allons pas perdre toute espérance de secours ou de guérison. Et je voudrais affirmer que le seul secours, c'est ce que vous entendez ce matin, non pas parce que c'est Alain qui prêche la parole, mais que vous entendiez la parole de Dieu pour vous dire « Il est temps maintenant que tu sortes de ta nuit, que tu sortes de toute ton obscurité » et que maintenant le Seigneur veut faire briller pour toi le soleil, et qu'il met devant toi l'étoile brillante du matin. Vous savez comment ça, vous savez qui est le nom de cette étoile brillante du matin? C'est Jésus. J'aimerais faire un succinct inventaire de la douleur des hommes, des tempêtes, voire des risques de naufrage, de ce que nous pouvons connaître. D'abord, il y a l'enfermement dans la culpabilité. Et je dirais, et je préciserai, culpabilité de victime, d'accord? Et je pense particulièrement à la honte, la fausse honte que nous pouvons avoir parce que nous nous croyons coupables, alors que nous ne le sommes pas, et que nous sommes là, quelque part tripotés par l'ennemi, tout simplement, parce que il y a une culpabilité à l'intérieur de nous-mêmes. Culpabilité de la victime. Avec ce résultat que nous nous renfermons dans une forme d'inhibition et de recroquevillement sur soi. Et peut-être par ce que je viens de dire, la honte, d'un ressenti, d'un faux ressenti de honte. Alors on se renferme sur soi, on tire le rideau. Et moi je pense aux hommes et aux femmes qui ont été abusés. Je pense aux enfants qui ont été abusés, aux jeunes gens et aux jeunes filles qui ont été abusés. Faut-il en parler ce matin? La parole aborde la question. Et c'est un thème, hélas, malheureusement, qui défraie la chronique encore aujourd'hui. Vous ne passez pas une semaine sans que vous entendiez des choses abominables. « Je pense également à un silence qui est lourd à porter. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les victimes malgré eux. Oui. On n'a pas choisi, mais on se tait. Parce que le diable travaille dans l'anonymat. Il blesse, il tue, mais il faut se taire. J'ai parlé tout à l'heure des violences de l'enfance, les maltraitances, où nous pouvons ajouter tout simplement l'innocence qui a été piétinée, où on a fait grandir des enfants au fer rouge, on les a précipités dans les problèmes des adultes, on les a écrasés, on les a piétinés, on a intenté à leur pureté. Il y a les souillures involontaires, ou l'insupeur de devoir rester dans une misère morale intolérable. Qu'est-ce que l'on fait? Alors bien sûr, le monde va vous offrir des psychologues, des psychiatres. Il va avoir tout un train d'accompagnement, mais entre la compréhension de cet homme dont le métier est peut-être de soulager l'âme humaine, il n'y a pas de délivrance. Si, la délivrance, ça sera un endormissement de la conscience avec des barbituriques, avec des médicaments et toutes sortes de choses. Mais la véritable délivrance, où est-elle? Tous ceux qui souffrent de garder un silence destructeur, et à chaque fois que la pensée vous vient, ça vous rend malade, qui amène les gens à se réduire à cette situation, réduit à se taire. On n'en parle pas. Trouver un ami, c'est difficile. En parler aux parents, c'est encore difficile. Alors, à toutes les âmes silencieuses et abîmées, on pourrait peut-être dire cela. Il y a ce beau psaume, et j'aimerais simplement lire le texte, le psaume 39, si vous voulez bien, mais je vais le restituer pour vous, où il est dit cette parole, tout simplement, et moi j'ai trouvé que les mots sont justes, le verset 3. Voilà un homme, voilà une femme qui souffre. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternelle, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile, ou combien certaines situations m'ont mis dans un état de fragilité. Surtout. Le verset 13, c'est une prière. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, afin que je m'en aille et que je ne sois plus. Désirer mourir quand les problèmes que nous avons évoqués sont trop lourds. Oui, mais Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, entends mes cris. Et je suis sûr qu'il y a 100 fois, 1000 fois, certains ont crié vers Dieu en disant, mais Seigneur, écoute ma prière, je suis malheureux, je suis malade. Alors maintenant, nous allons aborder un sujet très difficile. Très difficile dans son explication, mais il est biblique. Il y a un cas, il y a un récit qui nous est laissé dans la Bible, que je n'ai jamais abordé en prédication jusqu'à maintenant. Et je voudrais le partager parce que quand le soleil et les étoiles s'éteignent, ben on peut comprendre la signification de ce texte. Et ce thème est récurrent. Il est difficile peut-être à entendre, mais peut-être faut-il passer par là pour véritablement comprendre la miséricorde et la grâce de Dieu quand on est des malgré-soi. Le récit qui nous est donné, c'est dans 2 Samuel, chapitre 13. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Vous l'avez lu quelquefois, mais quand on lit ce texte, on a vite envie de refermer notre Bible. Alors, livre de Samuel. On va regarder ça ensemble. Livre de Samuel, chapitre 13. Et je vais prendre seulement un verset, on va faire le détail après de ce passage. Il y a cette petite phrase que que j'ai mis de côté, mais chapitre 13, verset 13. Après, on verra le contexte, on verra la substance même du récit. Voilà une jeune fille, parce qu'il s'agit d'une jeune fille, qui va dire ces paroles « Où irai-je, moi, avec ma honte ?» Alors, je n'en dis pas plus pour l'instant, on va aller à la découverte de ce texte. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, et il lui arrive quelque chose de ce qui peut être le plus terrible qui puisse arriver. Cette jeune fille, elle s'appelle Tamar. Et elle a un demi-frère qui s'appelle Amon. Et figurez-vous que ce sont des enfants, filles et garçons, parmi d'autres, du roi David. Vous connaissez le roi David. Et nous pouvons dire que lorsque nous lisons et nous allons découvrir ce récit, nous avons tous les composants du désespoir qui y sont réunis. Où là, nous pouvons vraiment dire que plus de lumière, plus de soleil, plus d'étoiles. Et il y a véritablement de quoi pleurer avec cette histoire. Je prends le verset premier, chapitre 13. « Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. » Et Amon, fils de David, l'aima. Il s'agit d'un amour dévoyé entre une jeune fille et son demi-frère. Demi-frère. Qui est épris, qui est saisi d'une folle passion, j'y ajouterai de jeunesse. Mais on ne va pas se limiter à la jeunesse. Le verset 2 nous en dit plus. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Voilà ce qu'il nous est livré. Voici le drame type, où j'ajoute ceci d'hier, mais ô combien d'aujourd'hui. De la recomposition des familles dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la mixité familiale. Nous avons des soucis à nous faire, et je ne porte pas un jugement, constatation, mais nous avons des soucis à nous faire pour les générations qui viennent, où il y a aujourd'hui une concurrence de 50% de foyers de couples qui restent fidèles, qui restent ensemble, et 50% de divorcés, avec les conséquences que ça peut avoir. Amon est un fils du roi David. Il est né d'une autre femme, parce que vous savez que David a eu 7-8 femmes, ce qui est déjà quand même pas mal. Son fils battra tous les records, hein, Salomon. Mais toujours est-il qu'un fils qui est un introverti, il a un problème. Il garde ça pour lui. Mais il est ravagé par un feu intérieur. C'est un malade. C'est un obsessionnel, on peut dire ça. Et c'est un violent compulsif, parce que nous allons voir que quand il nous est raconté un peu l'histoire, il y a quand même un vrai problème. Amon convoite une chose interdite. Et la chose interdite, elle porte un nom, c'est Tamar, sa demi-sœur. Il est un enfant gâté. Comme tous les fils de David. Et il nous est simplement rappelé qu'il était tourmenté à se rendre malade à cause de Tamar, tout simplement. Il lui était impossible de faire une tentative, parce qu'il savait très bien que ce genre de faute et de péché, ça porte un nom. Je vous laisse le choix de donner le nom. Mais c'était quelque chose qui était interdit. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà que dans la suite, il va recevoir des conseils, mais des mauvais conseils, qui va être finalement l'illustration de ce que nous connaissons. Eh bien, les bonnes mœurs sont les bons comportements sont tout simplement eh bien corrompus par les mauvaises mœurs, hein, tout simplement. Les mauvais conseils, des mauvaises compagnies, auprès d'un de ses amis qui s'appelle Jonadab. qui est en quelque sorte son cousin, parce que j'ai regardé un petit peu la généalogie, et c'est un garçon qui est pervers. Oui, parce que de la façon dont il pose la façon dont il répond à la question, voyant son ami, son très bon ami Amon, qui va s'apercevoir que, eh bien, il est malheureux, Amon, il va lui donner un conseil de perversion. Et dans le verset 3 à 4, lisons-le, Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shaéma, frère de David, et Jonadab était un homme très habile, et je dirais même à la limite pervers. Et il lui a dit ces paroles, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amon lui répondit, j'aime Tamar, sort d'Absalom, mon frère. Voilà un peu les choses, comment elles sont présentées, tout simplement. Pour nous dire encore si nous devons illustrer quelque chose, attention aux fréquentations et influences néfastes de nos enfants. Aujourd'hui, il y a tout, hein. Tout et n'importe quoi. Tout est en abondance, tout est en surabondance. Faisons attention. Vous savez, c'est pas quand nos petits-enfants, quand ils ont 3-4 ans, qui sont en danger. C'est quand ils deviennent adolescents. Parce que la personnalité est en train de se former, ils sont à la découverte du monde et toutes sortes de choses. Et là, il faut faire attention. Et moi, je ne suis pas pour dire ce qu'il y a à faire d'une manière ou d'une autre, hein, ça regarde chacun. Mais il y a des conséquences à tout cela. Et des choses qui peuvent être très difficiles. Et qui peut avoir véritablement amené des pleurs. Le verset 5 nous dit ceci. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle me prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amon dit au roi, je te prie, que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Voilà un petit peu les choses, comment elles sont dites, comment elles sont faites et comment elles vont être mises en pratique. De la pensée de mal faire aux actes, et nous allons passer aux actes de ce qui s'est passé. Il s'agit d'un piège machiavélique, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose dont l'inspiration, nous pourrions dire qu'elle vient de ce monde, cet autre monde des ténèbres. Et voilà qu'il va y avoir pour conséquence l'innocence volée à une jeune fille embarquée dans une tempête infernale. Elle ne l'a pas choisie, mais elle va être embarquée dans son entourage par un contexte qui est un contexte mauvais. Que dirais-je? C'est un euphémisme. On pourrait peut-être dire davantage, hein, certainement. Le verset 7 nous ouvre finalement, eh bien là, la suite de cette affaire. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur de ses appartements, va dans la maison d'Amon, ton frère, et prépare-lui un mets. Vous rendez compte que même David, on va en parler, David va rien voir de cette affaire. Et je vous dirai pourquoi il voit rien. C'est lui-même qui va demander, qui va dire, il va être en quelque sorte le complice sans le savoir, encore un autre embarqué, dont le but est la destruction, dont le but est de faire du mal. Alors, David est un bon père, c'est vrai, nous le connaissons, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui a la foi, c'est un homme qui a fait des bêtises, ça c'est sûr, mais il a su se repentir, il a su se mettre vraiment à genoux devant Dieu, et pleurer devant Dieu, créant en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, c'est lui qui l'a dit dans le psaume 51. Alors, c'est un bon père, mais comme les pères, certainement lui qui était roi, mais comme tous les pères d'aujourd'hui, il était trop occupé. Le problème, c'est que nous avons vraiment une vie très occupée. Il faut savoir où sont les priorités dans la vie. Et les priorités dans notre vie de chrétien. Et là encore, je voudrais vous dire, je ne juge pas. N'allez pas dire, je ne juge pas, je veux avoir un cœur sincère devant vous. Mais nous sommes embarqués dans une société, nous sommes embarqués dans un monde par nécessité, par obligation, parce que quelquefois nous avons fait des choix et puis nous ne pouvons pas faire marche arrière parce que il n'y a pas d'autre alternative pour nous. Nous sommes obligés d'y aller, et c'est vrai qu'il était très occupé, trop occupé, pour voir et veiller sur l'éducation de ses enfants. L'éducation de nos enfants se font souvent par délégation, vous comprenez? Parce que c'est comme ça, tout simplement. Et je dirais, à mal y pense, vous connaissez le proverbe, à mal y pense. Mais moi j'ajouterais ceci, mais À qui n'y pense pas, se jette bien dans des tourments, et c'est bien malheureux que David n'y ait pas pensé avant. Ouais. Qui n'y ait pas pensé avant. Et plus tard, le drame est consommé. Verset 21. Verset 21, il est dit ceci, une fois que le drame a été consommé, le roi David apprit toutes ces choses, et il fut très irrité. Et là, maintenant, nous allons rentrer dans ce qu'est toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici le désastre d'un idéal familial qui va partir finalement, eh bien là, à la dérive et qui va faire naufrage. Laissez-moi vous parler de la candeur de l'innocence, le verset 8 à 10. Tamar alla dans la maison d'Amon, comme son père le lui avait dit, pour préparer un gâteau ou un mets à son frère qui, soi-disant, était malade. Elle alla donc dans la maison de son frère qui était couché, qui faisait le malade, mais qui n'était pas malade. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire, prenant ensuite la poêle et les versa devant lui. Mais Amon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de, tout simplement, de chez lui. Il y a cette parole dans le Nouveau Testament qui nous dit que tout est pur pour celui qui est pur. Vous connaissez cette parole, hein? Ouais. Tout est pur pour celui qui est pur. Et moi, je dis maintenant, pauvre Tamar. Pauvre Tamar. Elle ne sait pas de quoi sont capables les hommes. Une jeune fille innocente. Elle ne sait pas. Même au milieu de sa famille, même parmi ses frères, ses demi-frères, entre autres, ce qu'ils sont capables. Et de quoi sont-ils capables? Alors, comme Tamar, verset 11, comme Tamar les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. J'espère que ça vous choque pas, hein. Mais c'est pourtant la réalité. Alors moi, je voudrais dire quelque chose parce que il y a des gens qui quelquefois sourcillent et il y a des gens de l'extérieur, pas les chrétiens, qui nous disent « Ah, elle est belle votre Bible, hein. » Vous vous rendez compte? Il y a des histoires de sang, des histoires de guerre, on tue, on égorge, on fait toutes sortes de choses. Regardez, il y a même des histoires d'inceste. Il y a des histoires d'adultère. C'est ça votre c'est ça votre Bible. Alors excusez-moi, moi je dis toujours Dieu est saint, Dieu est juste et il est pur. Et quand c'est écrit, c'est pour montrer que les hommes sont perdus, irrémédiablement perdus, qu'ils sont là dans une souillure incommensurable, et qu'ils ont besoin de venir à ce Dieu pour retrouver la voie du salut, et être pardonnés, et être purifiés. La Sainte Bible, même s'il y a des histoires comme ça, c'est pour nous dire que la Bible reste sainte, elle reste juste, elle reste au-dessus de tout, elle est parfaite la Bible. La parole de Dieu, elle est parfaite, mais c'est les hommes. Et c'est une histoire d'hommes qui nous est décrite. Ce sont des histoires terribles d'hommes qui nous sont décrites dans la Bible pour nous montrer à quel point l'humanité est déchue, combien elle est là, souillée et perdue. Est-ce qu'on l'a entendu ça, hein? Ah, elle est belle votre Sainte Bible. Ben oui, 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 c'est sûr. Et pour nous chrétiens, elle sera toujours belle. Et ça, c'est vrai que c'est choquant quand on lit ce que je viens de lire, là, le verset 11. Mais Dieu n'y est pour rien. C'est l'homme qui s'est mis lui-même dans cette situation, qui se perd lui-même, et qui est, naturellement, sans lui donner de circonstances atténuantes, mais qui est manipulé par le mauvais, par le mal. Alors nous voyons l'audace du péché et la brutalité de la passion. Je voudrais ajouter quelque chose. La passion est toujours mauvaise, mes frères et sœurs. Ouais. Elle est toujours mauvaise, parce qu'elle aveugle. Parce qu'elle nous rend fous, elle nous donne des obsessions, elle nous amène à perdre notre raisonnement et notre bon sens, et nous captiver dans notre intelligence. On voit Amon, il est fou avec cette histoire. Eh, dites donc, hé, des princesses, il y en avait autour de lui. Il avait certainement d'autres sœurs, mais bon, c'est interdit, hein. Il était complètement, comment dire, dingo, voilà. Mais ça, c'est l'homme. Tout simplement. Alors, brutalité. L'acte est infamant. L'acte qu'il va commettre est déshonorant et cet acte tue. Il amène la mort. Vous allez en avoir la preuve d'ici quelques instants. Il tue. Lui va avoir un châtiment, Amon. Mais il y en aura une qui va vivre. C'est Tamar, elle va continuer à vivre. Mais dans quelles conditions elle va vivre? Elle est abîmée, elle est souillée. Son âme étant dans un tel état, elle ne vit plus, elle existe. C'est tout ce que l'on peut dire. Parce qu'on peut tuer, comme vous allez le voir. On peut tuer avec un couteau, on peut tuer en égorgeant quelqu'un, physiquement. Mais il y a une autre mort, c'est de tuer les gens moralement, psychologiquement. Et c'est pour ça que nous avons, et j'ai titré, les désespérés, les naufragés du désespoir. Mais on n'est jamais, quand on connaît le Seigneur, on n'est jamais naufragé. Hein. On n'est jamais désespérément naufragé. Quand je pense à Tamar, je me dis que le faible a peu de défense. Oui. Le faible est toujours démuni. Et le fort sait très bien qu'il est fort. Et puissant qu'il est fort, il écrase. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et pourtant, notre petite Tamar va faire un plaidoyer. Elle va plaider. Mais c'est un plaidoyer dérisoire qui ne sera jamais entendu par le fou. Écoutez le verset 13. Où irai-je ? Dira-t-elle à son frère. Moi avec ma honte, et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi, parle à notre père, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. C'était déjà quelque chose qui... Mais il ne sait pas ce qu'il dit, hein, Amon. Parce qu'on ne marie pas un frère et une sœur, hein, c'est pas possible. C'est de l'inceste. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Excusez-moi, hein. Mais je suis le texte, tout simplement, pour montrer la gravité de ce que l'on peut infliger des souffrances dans l'âme des gens. C'est quelque chose. Elle dira, mais où irai-je avec ma honte? Une malgré elle. Et voilà l'odieuse agression, je le lis, mais il ne voulut pas l'écouter. Et je lis pas la suite, ça c'est pas la peine. L'odieuse agression sur la personne de Tamar. C'est un phénomène sociétal, c'est un phénomène de société qui se développe de plus en plus. Quelle nourriture donnons-nous à nos jeunes? Quelle alimentation donnons-nous? La question est là. C'est une question de toujours, mais qui prend des proportions aujourd'hui et qui n'est pas sans laisser les victimes dans toutes sortes de désordres moraux, psychologiques, voire physiques. Puis le verset 15 à 18. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as fait. Il ne voulut pas l'écouter et appela le garçon qui le servait et dit, et qu'on l'éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Et elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les princesses, les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Violence et déshonneur suivis du rejet et d'adversion, à tel point que le texte nous dit que sa haine a été plus forte que n'avait été son amour. Mais est-ce que c'est de l'amour? L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas de la consommation. L'amour, c'est autre chose. Quand on aime, on y respecte. Quand on aime, on respecte, tant par notre attitude que par nos paroles. Par la tendresse, par la proximité, par toutes sortes de choses qui prouvent que l'on aime. Et non pas cette vulgarité que nous voyons tous les jours, de faire finalement de l'autre bien notre bon plaisir. Adversion. Et comble de l'odieux, voilà que Tamar va connaître le bannissement, ce que j'ai appelé le bannissement de la victime. Sorte d'échouement d'un navire dans la tempête. Et qu'est-ce que nous pouvons dire de la détresse de Tamar quand elle s'explique « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait !» C'est terrible. Et on voit que devant ce plaidoyer dérisoire de de Tamar, il y a un endurcissement d'amour. Ah oui, il n'était pas sur la voie de la repentance, hein, de tous les cas. Il s'est endurci comme Pharaon. Il s'est endurci comme tous ceux qui ont fait du mal. Tous ceux qui font du mal en disant « Mais moi, je ne reconnaîtrai jamais mes fautes », bien que sa conscience certainement lui montrait l'odieux comportement qu'il a eu, il ne cède pas. Il va avoir raison. Ça, c'est signer sa mort. Et c'est ce qui va se passer, ça va pas tarder. C'est signer sa propre mort, tout simplement. Bannissement donc, cet échouement, ce bateau qui prend l'eau, Tamar, est en train de couler naturellement dans tout cela. Il ne voulut pas l'écouter, et par deux fois en l'espace de 3 ou 4 versets, il nous est dit qu'il ne voulut pas l'écouter. Alors, il a donné l'ordre de la mettre dehors, comme un simple Kleenex, passez-moi l'expression, que l'on a utilisé et que l'on maintenant on jette parce qu'il ne sert plus à rien. Et il a fermé la porte après elle, comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'avait eu lieu. Victime, la victime va devenir responsable et le coupable innocent dans cette affaire, par le silence que l'on va entourer. Ah, il était beau, hein. Il était beau, Amon, hein. Ah, ça c'est certain. Mais il était noir à l'intérieur de lui-même. Et c'est sa sœur qui va prendre toute la culpabilité. On lit, la porte se referme. C'est la porte d'une prison de solitude et de silence. Et c'est là où nous en arrivons finalement au problème de tous ceux qui ont été abîmés, de tous ceux qui ont été touchés, de tous ceux qui ont été écrasés d'une manière ou d'une autre. C'est cette prison de silence. C'est cette prison de solitude où on se retrouve tout seul. C'est une emmurée vivante, Tamar. Mais vivre, comment faire pour vivre maintenant? Vivre infirme. Elle avait encore ses deux jambes et ses deux bras, elle avait encore toute sa tête, elle pouvait être encore habillée comme une princesse presque, parce que là, elle va tout perdre. Mais toujours est-il que, apparemment, extérieurement, elle pouvait être vivante. Mais à l'intérieur d'elle-même, traumatisée sans oublier, la dégradation humiliante de Tamar, puisque il nous est donné au verset 18 cette parole que j'ai lue mais que je relis. Tamar avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les princesses, filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Fille de roi, qui va devenir malgré elle une fille de rien. Elle n'est pas devenue une prostituée, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Mais fille de rien, fille de plus rien. Et elle reçoit cette injonction de double peine, comme l'on dit aujourd'hui, comme nous avons au verset 20, Absalom, son frère, lui dit, « Amon, ton frère, a-t-il été vers toi ?» Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. « Maintenant, ma sœur, tais-toi. » Ils sont bons tous les deux. « Maintenant, tu te la fermes. Tu te tais. Tu ne dis rien, que personne ne sache. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » C'est facile pour Absalom de dire « Prends pas cette affaire trop à cœur. » C'est pas lui qui y est passé. Ça, ce sont des conseils de l'insensé, de celui qui ne comprend pas ou celui qui ne veut pas comprendre, bien qu'il voulait défendre sa sœur, parce que vous allez voir la suite. Tout simplement. Tamar, pauvre, Tamar est malheureuse, et elle hurle sa détresse et reçoit cette injonction de double peine. Tais-toi, pas de scandale. Pas de scandale dans la famille, pas de scandale ici, pas de scandale là, d'une manière ou d'une autre. Puis vient la colère d'un père. C'est David qui va se réveiller quand il va apprendre tout ce qui s'est passé, et nous l'avons lu tout à l'heure. Il nous est dit qu'il a été très irrité. David, c'était un homme d'énergie, c'était un homme de caractère. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel déplaisir pour lui. Mais ça le renvoyait peut-être à ses propres fautes. Hein. Certainement, quelque part. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon. La colère de David. Et bientôt, la haine d'un frère qui s'éveille, qui va aboutir à la vengeance meurtrière, et nous en arrivons à la fin de notre méditation. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon. Il devait le rencontrer de temps en temps dans les couloirs du palais, mais il lui disait rien. Mais il le prit en haine. Il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Et quelque temps après, vous savez ce qui s'est passé? Absalom va avoir l'occasion d'assassiner Amon. Quelle histoire! Quelle histoire! C'est terrible. Je m'arrête là. Similitude tragique. Je dis bien similitude tragique. À travers le livre des Actes, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte. Remettez Tamar dans le contexte. Remettez cette histoire dans le palais du roi David, dans le contexte. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. De nous sauver. Les histoires humaines. Mais pour ceux des frères et des sœurs qui ont vécu ce genre de choses d'une manière ou d'une autre, je ne parle pas uniquement du cas. Moi, je voudrais vous dire qu'il y a une possibilité d'être sauvé, d'être guéri, de laisser la main de Dieu agir. Jésus n'est-il pas venu mourir pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons, dans ses meurtrissures, délivrés et guéris? Ne permettons-nous pas au Saint-Esprit de venir dans notre vie pour, finalement, eh bien, nous débarrasser de la folie des hommes? Est-ce que ce n'est pas ça? La conclusion, je la tirerai de ce beau psaume qui nous est donné, le psaume 68, simplement une très courte parole. Et au verset 20, béni soit le Seigneur chaque jour. Alors, il nous appartient de faire de nos jours un enfer et de rester dans le silence, de rester dans le malheur, de faire de nos jours où là nous allons relever la tête et Dieu va nous guérir dans nos âmes. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et éternel le Seigneur peut nous garantir de la mort. De quelle mort il s'agit? D'une mort morale, d'une mort psychologique. Oui, le Seigneur est celui qui nous délivre. Il est capable de nous apporter la grâce dont nous avons besoin. Alors, naufragés de l'âme abîmée que nous pouvons être, Dieu secourt et il peut réparer les brèches que d'autres ont causées dans notre vie. Il guérit nos infirmités, et pas celles qui se voient, mais seulement, pas celles qui se voient, mais celles qui sont cachées. Il console de nos chagrins. Ne pleure plus, dit Jésus, dans certaines circonstances de l'Évangile. Ne pleure plus. Il apaise nos fausses culpabilités, parce que quand nous avons été victimes, il ne faut pas revêtir, finalement, eh bien là, la responsabilité, c'est pas nous, et Dieu le sait. Il y a une libération aussi de tout cela. Comme le dit ce psaume et comme nous le chantons, il me retire des grandes eaux, puisque nous parlions de navigation, nous parlions de bateaux qui coulent, de bateaux qui cherchent le port désespérément pour être secourus. Il nous délivre des grandes eaux, il me retire des grandes eaux. Et il nous apaise de tout ce qu'il peut y avoir de tumultueux, du mal dont nous avons été tout simplement les victimes. Dans le livre de l'Évangile, Matthieu, il nous est simplement rappelé ce que vous savez, parce que il y a une main invisible qui est sur chacun d'entre nous pour nous secourir et nous faire du bien. Il y a un homme, c'est un homme cette fois-ci, il s'appelle Pierre, brièvement. Pierre, qui va dire à Jésus, bien si c'est toi Jésus, permets que je marche sur les eaux. Et il va le faire, et il va marcher sur les eaux, mais à un moment donné, verset 30, mais voyant que le vent était fort, ça c'est une histoire de tempête, il a eu peur Pierre, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur sauve-moi. Vous l'avez déjà dit peut-être, Seigneur sauve-moi, mais peut-être que avec l'aide de ce message ce matin, eh bien vous allez le dire avec une autre façon de le dire, avec une espérance qu'il y a un secours possible. Seigneur sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit sa main et le saisit et le ramena. Il étendit sa main et il l'a ramené. C'est terrible ces histoires, hein, histoire de la vie. Hein. Il y a une divine consolation. Dans le psaume 10 et verset 14, pour nous dire que toute espérance n'est pas perdue, même si nous avons tassé et que nous avons cru peut-être passer tout par-dessus bord, les agrès, la chaloupe et tout le reste, que tout est fini pour vous, c'est pas vrai. Le psaume nous dit, verset 14, « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. » Moi, je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, Dieu a vu votre peine et votre souffrance, que vous traînez peut-être depuis des mois, depuis des années, un secret, une prison, un enfermement, une culpabilité. Le Seigneur a vu votre souffrance. J'avais vraiment à cœur de vous dire ça, de savoir que Dieu voit. Car Dieu voit la peine et la souffrance pour prendre en main votre cause. Vous savez, Jésus a tendu la main à Pierre. Il l'a retirée. Et si vous tendez la main ce matin, si le Saint-Esprit vous parle au fond de votre cœur et de dire « Ne reste pas comme ça. Ne laisse pas ta vie s'éteindre. Ne laisse pas le lumignon. Le Seigneur est capable de le réenflammer. Il est capable de te donner une nouvelle vie. Toi qui as été embarqué malgré toi, et qui a subi ceci et cela, parce qu'avant de se convertir, quelquefois la vie ne nous a pas épargnés, hein, avant de nous convertir. Car c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin, c'est toi qui se couvre. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. Vous me pardonnerez l'audace de ce choix de message, mais moi je crois que l'Église, dans l'Église ici et ailleurs, il y a des réparations. Il y a des bateaux qui sont endommagés. Il y a tellement de choses à faire pour que vous trouviez vraiment votre place dans la vie, votre place autour de vous et votre place aussi dans l'Église pour dire, eh bien Seigneur, oui, je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te servir. Je suis né pour vivre pour toi. Eh bien, si le bateau n'est pas réparé, il ne peut pas prendre la mer. Et le Seigneur vous dit, viens, allez, viens. Je te prends par la main et maintenant, je vais souffler un souffle nouveau sur toi. Et tu vas voir que le bonheur, il est encore possible. Que Dieu nous bénisse. On va prier. On va prier. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Moi, je crois que la Bible, elle est 3 fois sainte. Je crois que ta parole, elle est là pour nous être en effet en secours. Seigneur, je te demande de bien vouloir pardonner les paroles d'un homme que je suis, simplement. Je te demande maintenant de passer dans les rangs, de passer dans les vies, dans les cœurs, et que l'âme de mon frère, de ma sœur, qui est abîmée, qui a été souillée, qui a été volée, je te demande, Seigneur, de te révéler, de te manifester. Nous ne voulons pas faire de signes ostentatoires, mais nous voulons que chacun d'entre nous, parce que ça ne regarde personne d'autre, que moi et toi, que nous et toi, Seigneur, eh bien, nous voulons te demander tout simplement que tu viennes, Seigneur, ôter la honte. Une honte qui n'est pas justifiée, qui n'a pas lieu d'être. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont des malgré eux, oui, Seigneur, qui ont été embarqués sur une tempête et qui, après des années, après des mois, des années, oui, sont encore, eh bien, là, à naviguer péniblement. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu parles à leur cœur. Tu les visites, tu les bénis et tu leur dis que la vie est possible encore. La vie peut recommencer. Nous le chantons dans ce cantique. Tu peux repartir à zéro. Eh bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là, Seigneur, dans un port en train d'attendre la possibilité de pouvoir prendre la mer et qui ne détachent jamais les amarres parce qu'ils sont non pas, Seigneur, attachés, mais ils sont enchaînés. Seigneur, visite-les, bénis-les, accorde-leur ta grâce. Et ce que nous souhaitons, Seigneur, c'est que le peuple de Dieu soit un peuple libre. Non pas, Seigneur, avec des jambes, une tête, des bras, pour marcher, pour faire ceci et cela. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais moi, je te demande que mes frères et mes sœurs, qui souffrent, Seigneur, puissent véritablement être libérés à l'intérieur, dans leur cœur, dans leurs sentiments, dans leurs pensées, dans leur vie psychologique, dans leur vie morale, pour que véritablement, Seigneur, eh bien, ils puissent aller vers le port désiré. Ô Seigneur, redonne à tous ces vaisseaux, à tous ces navires, à tous ces bateaux que nous sommes, eh bien, la capacité de reprendre la mer, de pouvoir naviguer, de pouvoir vivre, Seigneur, et vivre en liberté, libéré du mal que les hommes nous ont fait. Au nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom, bénis ton peuple ce matin. Merci Jésus, merci pour ta grâce. merci pour ta parole. Il envoya sa parole, nous dit le psaume, et l'Éternel les guérit. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Assurément, un message qui n'est pas difficile, mais qui devait être dit plusieurs fois, eu à cœur.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.